France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Vous n'aimez pas aller au supermarché, encore moins à l'hypermarché. Ben, comme tout le monde, des amours, des affections, n'en pleut plus de la grande distribution. Vive les circuits courts et les produits plus sains, c'est vrai. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres, les hyper voient baisser leur chiffre d'affaires. Auchan, Carrefour, Casino, bataille avec des difficultés financières. Dans le même temps, les hyper qui ouvrent le dimanche se multiplient, ceux qui ouvrent sans caisse, donc sans caissière, font leur petite révolution. C'était le cas à Angers le week-end dernier et vous êtes aussi nombreux à dire que vous êtes pour. Dans le même temps encore, même si vous peut-être n'aimez plus votre hypermarché, il reste l'endroit le plus fréquenté après les boulangeries. On le rejette, mais donc on y va le dimanche. On veut des caissières, mais on trouve les files d'attente trop longues. On a longtemps crié sur le hard discount, voilà qu'on revient sur le hard discount. Bref, ouverture, fermeture, guerre des prix, nouvelles enseignes, nouveaux horaires, nouveaux services. La grande distribution qu'on adore détester va-t-elle disparaître ou est-elle au contraire en train de se révolutionner? Va-t-on vers un système à la Amazon où il n'y a plus caisse, plus caissière et plus personne? Eh bien, discutons-en ensemble, c'est tout de suite.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Patrice, c'est vous le premier, soyez le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir. J'habite Saint-Germain-la-Blancherbe, une petite ville du Calvados juste à la sortie de Caen. Et je suis en train de voir disparaître mon commerce de proximité qui est Leader Price qui dépend de Géant Casino. La tactique, Géant Casino estime que ce magasin, sans doute que ce magasin n'est pas rentable, puisqu'ils ont depuis plusieurs semaines déjà cessé de l'approvisionner, c'est-à-dire que les rayons sont de plus en plus vides. Donc on oblige les clients forcément à aller vers d'autres grandes surfaces, hein, puisque quand il n'y a plus rien dans les rayons, on va ailleurs. Mmh. Et c'est donc la disparition d'un petit commerce, d'une petite ville, c'est le seul commerce de la ville. En même temps, il y a des liens sociaux forcément qui disparaissent aussi, puisque s'il y a une super équipe dans ce magasin, il y a un gérant qui est vraiment bien, il y a une équipe super sympa, les gens se connaissent. Donc c'est aussi une disparition du lien social, tout ça au profit des actionnaires de Géant Casino.
Ça veut dire que votre option, Patrice, désormais, c'est d'aller à quelle distance par rapport à ce qui était plus simple pour vous aussi?
Ah ben chez moi, c'est à 100 mètres de chez moi.
Ah bah d'accord, quand même.
Enfin, dans ma petite ville de 2500 habitants, c'est un commerce qui est au maximum à 200 mètres des limites du... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la ville.
Oui, celui-ci, oui, mais désormais, du coup, si celui-ci s'il ferme...
Ça me fait faire 3, 4, 5 kilomètres pour aller vers des super rues ou des des magasins. Moi, ce que je vois surtout, c'est le côté familial de ce magasin où tout le monde se connaît. Et où tout le monde, c'est au niveau du lien social que ça me pose un problème. Tout ça parce que Géant Casino estime que c'est pas assez rentable. C'est plus rentable pour eux, les supermarchés sans caissière apparemment.
Pas forcément.
Surtout pour les actionnaires.
Et on verra d'ailleurs ensemble si justement c'est plus rentable et où vont les clients. Merci beaucoup Patrice pour cette entrée en matière qui place bien notre débat pour discuter avec vous ce soir, répondre à vos questions. Philippe Moitié, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'Université Paris-Diderot. Vous êtes co-président de l'association OPSOCO, Observatoire Société et Consommation. Et bonjour Olivier Devers.
Bonjour.
Je vous prononce le S ou pas?
Comme vous voulez,
comme
j'ai jamais su.
Écoutez, on verra ça à la volo. Vous êtes spécialiste de la grande distribution, vous avez un blog d'ailleurs qui porte votre nom. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que dit Patrice. D'abord, effectivement, le fait que ces petits commerces-là là, sont en train de disparaître, mais aussi que justement ce qui a été considéré autrefois comme une forme de supermarché est en train de devenir le commerce de proximité dans certaines villes, ce qui est quand même au fond assez étonnant, Philippe Moitié.
Oui, j'ai eu le même réflexe que vous, d'entendre regretter la fermeture d'un Leader Price, qui est quand même un supermarché plutôt orienté prix cassé, appartenant à un groupe de la grande distribution.
Ça appartient au groupe, mais c'est plus petite taille. Et donc, désormais, c'est rentré dans l'idée du commerce de proximité.
Exactement. D'ailleurs, la grande distribution a fait son entrée dans les villes, avec déjà une bonne quinzaine d'années, avec des formats de moyenne surface. Et désormais, effectivement, la grande distribution se conjugue au pluriel. Et c'est aussi du commerce de proximité. Ce n'est pas que l'hypermarché.
Et dans le cas présent de ce magasin, ce qui se passe, parce que ça arrive dans des tas d'autres Leader Price en France, Casino a décidé de fermer des magasins qui n'étaient pas rentables. C'est pas parce qu'ils gagnaient pas assez d'argent. C'est parce qu'ils ils n'en gagnaient pas, ils en perdaient. Et on assiste désormais en France, c'est assez nouveau, il y a 10 ans ça n'arrivait jamais, à la fermeture de magasins, parce qu'on a plutôt trop de magasins que pas assez. On a continué à empiler des magasins, des mètres carrés commerciaux, alors que dans le même temps, la consommation, et notamment alimentaire, des ménages, ne progressait plus, donc ça coince. Donc il y a trop de magasins, pas assez d'euros qui y sont dépensés, les plus faibles ferment, c'est malheureusement le cas de ce magasin. Il fallait y aller davantage avant.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on a été trop gourmand dans la guerre des prix, la guerre des surfaces? Parce qu'on a l'impression, aujourd'hui, là, on est en train d'essayer d'envoyer les voisins de notre ami Patrice à 2 ou 3 kilomètres de là dans une surface plus grande.
Il y a une responsabilité politique. Mais alors, parce que pendant longtemps, on a fait venir des magasins.
J'allais vous poser la question. Est-ce qu'on a été trop gourmand ou est-ce que c'était un attrait? Faites-moi venir votre hyper dans ma commune, ça me fera de l'emploi et ça fera venir les gens dans mon secteur.
Ça faisait de la modernité. Il faut se rappeler qu'il y a une vingtaine d'années, les maires faisaient des pieds et des mains pour avoir des hypermarchés dans leur commune. Et donc, il y avait une espèce de concurrence entre communes pour faire venir des magasins. Donc, évidemment qu'on a ouvert trop de magasins, malgré une loi qui encadrait les ouvertures parce qu'il faut des autorisations. Sauf que le politique, localement, était en général très favorable à faire venir un hypermarché chez lui plutôt que dans la commune d'à côté.
Si on n'y vient plus, aujourd'hui, si on y vient moins, Philippe Moiti, est-ce que c'est simplement parce que l'offre est beaucoup plus large, parce qu'on peut aussi choisir dans certains endroits de commander sur Internet, ou est-ce que c'est parce que réellement ce mode-là de consommation dans l'hyper, dans la très grande surface, est en train de disparaître parce qu'on n'en veut plus, en fait?
Oui, il faut vraiment qu'on distingue, pour la clarté du débat, le sort de l'hypermarché et le sort des groupes de la grande distribution, dont on a vu qu'ils sont désormais multiformats, ils sont également dans la proximité. Donc l'hypermarché, effectivement, on rentre dans une période de crise. Hein, et aujourd'hui, les acteurs en sont parfaitement conscients. Il faut se rappeler de la genèse de ce format. C'est un format qui est né en France, en 1963, pour être précis, dans un contexte très particulier, qui est celui des Trente Glorieuses. Donc, en gros, ça incarne à un moment donné la modernité. Hein, les Français se jettent sur ce concept qui ouvre grand les portes de la société de consommation. Ça contribue à la démocratisation de la consommation. À un moment où, en gros, ce qu'il faut arriver à faire pour développer le business et développer la consommation, c'est baisser les prix. Donc l'industrie fait tout pour baisser les coûts de production. La grande distribution et l'hypermarché va inventer une formule qui réduit les coûts de commercialisation. Donc formidable. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en ce contexte-là. L'économie a beaucoup changé, la société a considérablement changé, et en particulier sur un point qui est vraiment le talon d'Achille de l'hypermarché, la démassification. C'est-à-dire qu'en gros, l'hypermarché s'est appuyé sur une classe moyenne très homogène dans ses attentes en termes de consommation. Et cette classe moyenne, qui existe toujours sur un plan économique, eh bien, s'est délitée sur un plan sociologique. Elle est profondément hétérogène aujourd'hui. Et donc, vouloir capter une clientèle hétérogène avec une offre qui reste une offre de masse, ça marche plus. Et surtout, ça marche plus lorsqu'à l'extérieur de l'hypermarché, vous avez la prolifération de formats commerciaux beaucoup plus spécialisés, qui ne cherchent pas à séduire tout le monde, qui cherchent à apporter des réponses précises à des attentes spécifiques.
Est-ce qu'on peut dire que l'hyper, Olivier Dauvers, est mort, en tout cas cette forme d'hyper-là est morte? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on invente, on va y venir avec une question, qu'on invente les sans-caisses ou les différents services, parce que la forme toute seule ne marche plus d'elle-même, en fait?
Alors, il y a des morts qui aimeraient se porter malgré tout aussi bien que l'hypermarché, on va le formuler ainsi. L'hypermarché demeure aujourd'hui en termes économiques.
C'est ce que disait l'un des plus fréquentés aussi.
Et puis surtout en termes économiques, un chiffre d'affaires. Les Français dépensent chaque année encore plus de 70 milliards d'euros dans les hypermarchés. Cela dit, ça ne progresse plus. Donc, il ne croîtra plus. Il va plutôt gentiment décroître. Pour autant, il ne va pas disparaître. Donc, l'hypermarché n'est pas mort.
Mais il est
à son sommet.
Tel qu'on le connaît, en fait, tel qu'on l'a fréquenté,
Surtout avec deux jambes. Une jambe sur les produits non alimentaires, les rayons non alimentaires, et une jambe alimentaire. Ce modèle-là qui mêle les deux univers, il est quand même sérieusement menacé par le développement du e-commerce qui vient vider les rayons bazar informatique, technique, bricolage, que sais-je encore. Et donc, ça oblige l'hypermarché à se refocaliser sur l'alimentaire. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans les stratégies des acteurs. C'est on diminue les surfaces au détriment de tous les rayons non alimentaires.
Alors, l'autre stratégie, allez-y, Philippe.
Le problème, c'est qu'ils commencent aussi à perdre un peu des positions sur l'alimentaire qui est leur cœur de métier. Et notamment par la concurrence qu'ils ont organisée en leur sein, puisqu'ils ont développé des formats de proximité qui sont plus en phase avec les attentes des consommateurs.
Ils se mangent les uns les autres.
Ils se mangent un peu les uns les autres. Et à côté de ça, hors dehors de la grande distribution, vous avez évoqué tout à l'heure les circuits courts, on pourrait parler des AMAP, tous les circuits directs producteurs, voire même le début des ventes de produits alimentaires sur Internet. Donc, même sur leur cœur de métier, ils commencent à pâtir aujourd'hui de la prolifération des autres formes de commerce qui répondent mieux à la diversité des attentes des consommateurs.
Et c'est peut-être pour ça qu'ils inventent d'autres formules, et notamment, après tout, celle du sans-caisse l'après-midi, pour essayer d'attirer une autre forme de clientèle. C'est un peu le sens de votre question, Jean-Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur.
Soyez le bienvenu.
Merci beaucoup. Je vous appelais parce que je suis toujours intéressé par ce sujet, parce que même si je suis maintenant retraité, j'ai travaillé 25 ans dans la grande distribution, groupe Lidl, je ne sais pas si je peux le citer.
Oui, vous pouvez y aller, on en citera d'autres, je pense.
Oui, qui n'est pas le meilleur en matière de nombre de salariés par surface. Voilà. Moi, j'étais surpris et à la fois non surpris par l'ouverture du casino sans caisse, parce que les grands groupes, enfin vos intervenants se sont déjà prononcés là-dessus, ont des difficultés de rentabilité, notamment que ce soit Carrefour ou Casino. Ils ont trouvé la brèche, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de salariés après 13h le dimanche. Bon. Alors que font-ils ? Ils utilisent des caisses sans salariés.
Pour rappeler aux gens qui nous écoutent, dans ces magasins, il y a des vigiles et une sorte d'animatrice en fait qui est là pour vous aider si votre caisse se bloque, en gros, mais il n'y a personne du magasin.
Qui sont des prestataires,
Exactement. Des
intervenants extérieurs.
Exactement.
Donc, voilà. Et donc, je pense, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on le sous-tendait, que j'en entendais parler, moi, dans la grande distribution. Ils vont y venir inévitablement parce qu'ils ont un problème de rentabilité grave. Carrefour, Auchan, Casino, un peu moins Leclerc, entre choisir le nombre de salariés, avoir des salariés ou privilégier la rentabilité, je suis à peu près certain qu'ils iront vers la rentabilité, c'est-à-dire développer petit à petit des caisses sans caissière. Et malheureusement, le consommateur, c'est pas un souhait du consommateur, c'est l'hypermarché qui l'impose. Mmh. Le consommateur le fera parce qu'il n'aura pas le choix. Et c'est tout le problème. Alors la question que je pose, pour en terminer, est-ce que le gouvernement, même si c'est un problème d'entreprise privée, et donc il a en fait assez peu de réactivité possible, est-ce qu'il peut intervenir à ce sujet ?
Alors, une question après l'autre, mais effectivement, merci beaucoup Jean-Marc. Il y a eu aujourd'hui au moins un questionnement qui demande si effectivement cet hypermarché sans caissier est légal. Il y aura une action, n'exagérons rien, mais en tout cas, c'est scruté par le gouvernement, c'est ce qu'ils disent, pour voir si effectivement on a le droit, puisque Jean-Marc nous l'a rappelé, la règle effectivement c'est qu'on n'a pas le droit d'employer des gens après 13h, donc là on décide de faire sans employés locaux. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée qu'on ouvre tous les dimanches à n'importe quelle heure, et pourquoi pas aussi la nuit dans les magasins, c'est ce que en gros on a pu entendre, y compris de la part du gouvernement. Donc moi j'ai deux questions. Est-ce que effectivement on est au bord de la loi, selon vous? On est en train de marcher sur un précipice, là. La deuxième question, est-ce qu'on en a envie, nous, le consommateur, vous qui les voyez, les connaissez, est-ce qu'on en a envie de ça? Est-ce qu'on le sait?
Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le fait de pouvoir faire ses courses n'importe quand et de le faire de manière automatique. Ça ne se superpose pas nécessairement. On va commencer par les caisses automatiques. Aujourd'hui, plus d'un magasin sur deux propose des caisses automatiques. Et aujourd'hui, 15% des passages en caisse se font via ces caisses automatiques. Que je sache, personne ne force un consommateur avec un pistolet sur la tempe à utiliser une caisse automatique. Manifestement, on a atteint une volumétrie de passages en caisse qui montre que une partie des clients, pour une partie de leurs achats, mais ce n'est pas marginal, sont tout à fait d'accord pour utiliser des caisses automatiques. Ça, c'est pour l'automatisation et quelque part la destruction d'emplois, parce qu'évidemment, c'est des caissières en moins. Le deuxième point, c'est aller faire ses courses n'importe quand. On peut considérer qu'il y a quelques endroits. Allez, peut-être les grandes métropoles, les axes très, très passants des métropoles où il y a un intérêt à ouvrir très tard le soir ou très tôt le matin. Je ne suis pas persuadé dans le cas présent à Angers, pour y être allé d'ailleurs dimanche après-midi.
Que tout le monde aura envie un dimanche après-midi à 17h12.
Mais c'est deux sujets distincts. Pouvoir faire ses courses n'importe quand et utiliser des caisses automatiques. Il se trouve que lui, ce magasin, il a superposé les deux problèmes et voilà pourquoi on en a autant parlé.
Philippe Moiti, est-ce que c'est l'avenir au fond, ou est-ce qu'on est là? Vous le disiez, vous parlez de la difficulté de certains magasins, on est dans une sorte d'effet de buzz, l'idée d'inventer quelque chose de neuf, parce que si on veut plus faire plus de largeur, ben on invente quelque chose de différent. Est-ce qu'on est juste là, ou est-ce que cet exemple va faire des petits?
Oui, alors il faut effectivement distinguer les deux problématiques qui se rejoignent, mais qui sont disjointes. Hein. Alors, sur l'ouverture le dimanche, À vrai dire, il y a eu ce débat revient périodiquement.
Ouais, l'ouverture du dimanche, c'est une chose. L'automatisation, c'est une chose.
Alors, parlons de l'ouverture du dimanche. La grande distribution alimentaire a jamais été très demandeuse l'ouverture du dimanche, parce qu'elle a bien compris que c'est pas parce qu'on ouvre un jour de plus que nous allons acheter davantage de produits alimentaires, de produits du quotidien. Ça peut se défendre sur les articles de loisirs, de sport, de mode, parce que l'offre peut créer la demande. Sur les produits du quotidien, pas du tout. Donc, ils vont étaler sur 7 jours ce qu'ils vendaient sur 6 jours, mais avec les coûts sur 7 jours. Donc, en fait, ils n'étaient pas vraiment demandeurs. Sauf qu'on a ici un acteur qui est un peu en difficulté, qui a besoin de se différencier de ses concurrents. Et il se dit, si moi j'ouvre alors que les autres sont fermés, je vais capter des clients. Le problème, c'est que si il commence à faire ça, et il compte bien le groupe Casino compte le généraliser à beaucoup de ses magasins, les concurrents vont pas rester manchots, ils vont devoir réagir, et on s'achemine vers, effectivement, sauf si ça apparaît comme étant illégal, ce dont je doute, on s'achemine vers une ouverture 7 sur 7, 24 heures sur 24, de tous les, des magasins alimentaires qui pourraient en supporter le surcoût.
Depuis toujours, la distribution est dans cette logique d'accroître ses capacités à vendre. Historiquement, elle est développée par l'ouverture de nouveaux magasins ou l'agrandissement des magasins existants.
Et désormais, surface, on ne peut plus le faire.
On s'étend par l'amplitude horaire.
Mais ça ne montrera pas la taille du gâteau.
C'est bien ça le problème.
Par exemple, nos voisins l'ont fait. Donc, est-ce qu'on sait, par exemple, quand un magasin est ouvert très longtemps chez les Britanniques, par exemple, est-ce qu'on sait si le chiffre d'affaires augmente? Les Américains le font depuis la nuit des temps.
Je vous prends le cas des États-Unis.
Par exemple,
aux États-Unis, beaucoup de magasins, même dans des zones qui sont très rurales,
Walmart,
très reculées, 24
heures sur 24.
Sont ouverts 24/24. Parce que c'est mon métier, à chaque fois j'y vais, je m'amuse de voir à 3h du mat s'il y a quelqu'un ou pas. Il y a très peu de gens dedans. Il y a des employés qui font du remplissage de rayons parce qu'ils peuvent le faire à des coûts plus faibles que chez nous, parce que pour le coup, la main-d'œuvre, elle est tellement moins chère aux États-Unis. Donc, ça leur coûte pas très cher à eux d'ouvrir des magasins 24/24. Donc, même s'il y a que quelques clients, ils les prennent.
Mais
chez nous, ça coûte très cher.
Mais effectivement, ce ne sont pas des magasins automatiques. Ce sont en général une de caissières, y compris dans un énorme hyper, ce qui est encore différent. Cette question sur franceinter.fr de cet auditeur dont je ne vois pas le prénom, qu'il m'excuse. Il n'y a plus de magasins dans les zones rurales. Le plus proche chez moi est à 20 km, donc nous n'avons pas le choix. Philippe Moiti.
Là, curieusement, l'automatisation des magasins va peut-être apporter un élément de réponse, puisqu'on peut concevoir aujourd'hui, on a des prototypes, des magasins tout petits, quelques dizaines de mètres carrés, totalement automatisés. Alors là, il y a zéro personnel, donc il n'y aura aucun problème légal. On s'identifie avec son téléphone, on fait ses courses, on paye et on s'en va. Donc là où il n'est pas rentable aujourd'hui de mettre un supermarché et on impose aux consommateurs des déplacements qui peuvent être importants lorsqu'on est en zone peu dense, on peut imaginer que demain, cette automatisation totale des magasins conduisent à essaimer des toutes petites choses, des tout petits formats. On parle de format container, pour vous donner un ordre de grandeur, qu'on pourra mettre dans les zones peu denses et finalement apporter les produits du quotidien au plus près des consommateurs.
Est-ce qu'on s'achemine, Olivier Dauvers, allez-y.
Et n'oublions pas qu'il y a peut-être 10, 15, 20 ans, dans ces communes-là, il y avait un magasin d'alimentation. Et s'il a fermé, c'est parce que les clients n'y allaient plus assez et qu'ils préféraient prendre leur voiture pour acheter moins cher dans des magasins de plus grande taille en périphérie, par exemple, de métropole.
Ouais, sauf qu'ils font donc le voyage retour, est-ce qu'on s'achemine réellement vers un système à la Amazon à terme, c'est-à-dire que je vais rentrer dans mon supermarché avec mon téléphone et que le code barre sera lu même sans que j'ai à le bouger et à la fin j'aurai payé même sans m'en rendre compte.
C'est pas tout à fait comme ça qu'Amazon fonctionne. Amazon fonctionne pour les magasins d'alimentation sur la reconnaissance des produits que vous prenez dans la main, vous n'avez même pas besoin de les scanner. Et ça ne fonctionne que sur des magasins de petite taille avec peu de produits à l'intérieur. Parce que la machine, pour le moment, n'est pas capable de faire ça à l'échelle d'un hypermarché. Un hypermarché aujourd'hui France, il y a 200 000 articles à l'intérieur. Et quand le samedi, vous avez 20 000 clients qui y passent, c'est encore pas horizon prévisible, une solution technologique accessible.
Patricia, bonsoir.
Oui, bonjour.
Pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, Patricia. Allez-y, on vous écoute.
Non. Alors, moi, je suis au chômage. J'ai 500 euros par mois pour vivre. Donc, malheureusement, je peux pas aller au magasin bio comme je voudrais. Par contre, je vais de moins en moins dans les hypermarchés parce que je veux plus de tentation. Et en plus, je ne veux pas faire marcher le système de internalisation, que tout vienne de l'international. Donc, je vais plutôt dans les petites surfaces, certes à des chaînes, mais et j'achète que le minimum, c'est-à-dire le riz, les pâtes non transformées, et j'essaie de résister au maximum. J'achète absolument pas de boissons sucrées, enfin tous les trucs qui sont à mon avis complètement inutiles et c'est la publicité qui nous force à y acheter. Par contre, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont comme moi, mais ils se servent pas de cette non-consommation pour revendiquer de changer l'ensemble de la société de consommation. Moi, j'ai fait une pétition préavis de grève de la consommation, qui est sur pour l'avenir en un seul mot, vous pouvez la suivre, qui revendique de ne pas consommer, parce que pour changer la société, il faut jouer sur la société de consommation. Le système capitaliste marche par la consommation, donc c'est en touchant, en agissant par la consommation que l'on pourra faire changer les choses.
Message.
C'est pas une manif qui peut faire quelque chose, mais ne pas aller dans une grande surface, si, ne pas acheter des produits de Apple et autres qui fraudent le fisc, ça peut
agir. Ce qui est encore un autre débat. Message passé, Patricia. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça intéressant, ce que nous dit Patricia, qui gagne 500 euros. Elle fait extrêmement attention, évidemment, à ce qu'elle dépense. Ce qui est intéressant, c'est de se dire l'hyper, contrairement à ce qui a pu être le cas autrefois, l'hyper ne veut pas dire que il n'y a que des gens qui ont du mal avec les fins de mois, et c'est pas forcément le plus simple pour eux, même y compris financièrement, d'aller dans un établissement de ce genre.
Mais la tentation, c'est pas un petit sujet.
La tentation, c'est extrêmement intéressant.
Mmh. Bon, de notre côté, vous voyez, aujourd'hui ont été publiées les performances des enseignes sur le dernier mois qui vient de s'écouler. Les deux gagnants sont les deux plutôt moins chers, c'est Lidl et Leclerc. Mmh. Donc il y a malgré tout encore une appétence pour le prix bas dans ces enseignes-là, parce que c'est celles qui se portent le mieux aujourd'hui, comme quoi malgré tout, cette appétence pour le prix reste très prégnante dans la société. On a tous envie de moins consommer, mais si on peut consommer davantage en dépensant moins, on y va quand même.
Il y a toujours une appétence pour le prix bas, j'imagine. Ouais. Enfin, je veux dire,
et pour la consommation.
C'est évidemment très humain. Est-ce que ça veut dire que quand on lit, quand on voit que certains consommateurs sont prêts à dépenser plus, Philippe Moiti, pour avoir une autre qualité, une autre provenance, est-ce que ça veut dire qu'on parle là d'une minorité, au fond, des gens comme vous et moi, qui gagnons bien notre vie, qui n'avons pas ce genre de soucis-là? Est-ce que c'est ça que ça veut dire aussi?
Non, d'abord, ça souligne ce que j'évoquais tout à l'heure, cette hétérogénéité des consommateurs. Mm-hmm. On peut vraiment pas parler des consommateurs au singulier. Hein. Et je trouve que l'intervention qu'on vient d'entendre est tout à fait révélateur d'un changement de contexte pour la grande distribution. On a parlé de problèmes économiques tout à l'heure, en quelque sorte, mais il y a un problème de fond qui va être beaucoup plus dur à surmonter, c'est la perte de légitimité de la grande distribution. C'est-à-dire qu'en gros, dans nos enquêtes à l'Obsoco, nous mesurons régulièrement le degré de confiance que suscite la grande distribution.
Les gens n'aiment pas leur hyper. Ils y vont toujours, certes, mais ils ne l'aiment pas.
Et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas les aimer, et certains d'entre eux, d'ailleurs, l'ont déserté définitivement, parce que ça représente un système, avec des guillemets,
c'est ce que dit Patricia.
Dont on veut de moins en moins. Mm-hmm. La surconsommation, la déshumanisation, la délocalisation, le mauvais traitement qu'on va infliger aux petits producteurs, etc. Quand on fait nos enquêtes, on se rend compte que les méchants, ce sont les gros, ce sont les grandes marques de l'agroalimentaire, les grandes enseignes de la grande distribution, et les gentils, c'est les paysans, les artisans, les petits commerçants qui étaient des ringards encore il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont la cote. Et donc, les principaux motifs d'insatisfaction et de fuite devant l'hypermarché sont des motifs idéologiques. Nous, on a posé la question à un échantillon de Français. On leur a demandé quelles sont les trois principales raisons pour vous, on avait fourni une liste longue, de ne pas aimer la grande distribution. Je vous donne le résultat parce qu'il est frappant. Ce qui arrive en premier, cité par 43% des Français, c'est le fait que les hypermarchés appartiennent à de grands groupes d'abord préoccupés par la maximisation de leurs profits. C'est-à-dire qu'on n'a plus le sentiment que ces acteurs sont là pour nous aider à gagner du pouvoir d'achat. Ce sont des acteurs qui sont là pour gagner du profit, et donc leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Et à 70%, les Français sont convaincus que la grande distribution a sa part de responsabilité dans les difficultés économiques et sociales que connaît le pays.
Mais dans le même temps, Philippe, on a eu deux auditeurs qui nous ont dit, pour un, ils regrettaient que le Leader Price ferme, et l'autre qui il devait faire 20 km pour aller trouver un supermarché, alors que s'il l'avait en bas de chez lui, il trouverait ça génial. Donc, c'est-à-dire, il y a cette espèce de paradoxe.
Paradoxe,
je les aime pas, mais je les veux.
C'est effectivement notre grand paradoxe, mais est-ce forcément, ces études, ils les ont aussi, donc ils s'en rendent forcément compte. Est-ce que quelqu'un essaye de changer l'image du supermarché? Est-ce qu'ils y travaillent vraiment
ou
pas?
Un virage à 180 degrés, à peu près un an et demi, deux ans, où... aujourd'hui, c'est une sorte de concurrence à la vertu. Quoi.
Mais est-ce que c'est les petits producteurs, par exemple?
C'est ça, c'est les déclarations d'amour aux agriculteurs.
C'est la transition alimentaire,
c'est les circuits courts, y compris dans les hyper,
le respect des petits, etc. Tous ont pris le virage. Le problème, c'est que les consommateurs n'y croient pas. On les a sondés sur cette question. Est-ce que vous y croyez quand les distributeurs disent que désormais, ils vont être les champions du mieux consommé? Eh bien, à 75%, les consommateurs n'y croient pas. Donc, le passif en termes d'image est très, très lourd. Et inverser la vapeur, ça va être très difficile.
Parce qu'il y a un antagonisme aussi historique. historique entre le généraliste qui vend de tout, donc qui peut être bon sur rien, et le spécialiste qui, par principe, ne vendant qu'une petite catégorie de produits, est perçu comme l'expert. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que le généraliste plaît de moins en moins.
Allez, la parole à la défense. Bonsoir, David.
Bonsoir.
Vous êtes chef de rayon chez Carrefour. Défendez-vous, David.
Ben oui, oui, je vais essayer un petit peu. Non, ce que j'aimerais simplement dire, c'est, alors je suis rentré chez Carrefour assez récemment, mais je tenais à souligner effectivement le. Alors, depuis que je suis rentré, effectivement, il y a un vrai virage, en tout cas chez moi, effectivement, sur les circuits courts. Je travaille en boucherie, donc je travaille avec des fournisseurs, je les connais. J'arrive à les faire rencontrer aux clients. Et puis je trouve malgré tout que les clients aujourd'hui en hypermarché, alors après spécifiquement dans mon magasin, ben ils viennent quand même. Ils restent quand même attachés à leur magasin. Alors après, on a tout un tas d'études chaque semaine qui tombent avec différents indicateurs sur l'attente en caisse, la qualité fraîcheur des produits. Et je trouve qu'en tout cas chez Carrefour, enfin on est vraiment très 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 attentifs à tous ces aspects-là, et effectivement
Mais est-ce que vous sentez vous aussi que vous avez du mal à convaincre les gens qui sont en face de vous? Est-ce que vous, depuis votre rayon boucherie, vous le sentez? Vous êtes obligé de convaincre les gens que vous faites de la qualité?
Alors, on a un petit peu de mal à les convaincre, mais une fois que c'est fait, effectivement, en expliquant d'où viennent les produits, en expliquant clairement qu'on a une charte de qualité à respecter, qu'on a de nombreux contrôles d'hygiène. Enfin, j'ai travaillé en petite boutique et très honnêtement, enfin, il y a un monde et enfin, venez en hypermarché quand même.
Votre message est passé, bien joué, David. Le message est passé.
Il n'y a pas totalement tort. Mais la distribution est beaucoup plus contrôlée par les autorités administratives, et c'est normal d'ailleurs, que les artisans.
Et ça aussi, c'est le fameux paradoxe dont on parlait. En effet, beaucoup plus de contrôle, une chaîne du froid qu'on regarde, mais vraiment à l'hyperloupe.
Mais l'essentiel n'est pas la réalité, mais la perception. Exactement. Et c'est ce que Philippe Moati disait, c'est que la perception est celle-là. On doute.
Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut précisément changer de modèle? C'est ce que je disais sur...
Je crois que c'est ça que ça veut dire.
C'est ce que je disais dans la disparition de l'hyper tel qu'on le connaît tout à l'heure en début d'émission. Au fond, puisque ça marche plus, puisqu'on n'a pas confiance, il faut repartir sur d'autres bases et sortir de ce modèle de l'énorme cube et du mastodonte à consommation.
Oui, et plus généralement, en fait, c'est le modèle de consommation qui est en cours de redéfinition. C'est pour ça que c'est très très sérieux. Les aspirations des consommateurs ont changé considérablement. On veut de la qualité, on veut de l'authentique. On veut une consommation qui soit compatible avec les enjeux du développement durable. C'est très très important ça. Et on a le sentiment que cette recherche de compatibilité en termes de qualité et de respect environnemental est incompatible avec les grandes échelles.
Et les deux enseignes qui progressent le plus sont les moins chères. Parce qu'il faut aussi le remettre tout de suite malgré tout. Et les chiffres sont tels aujourd'hui. Oui. Les évolutions sont énormes. On n'a jamais connu des variations de parts de marché aussi fortes entre enseignes au profit de celles qui vendent plutôt moins cher que les autres. Ce qui veut dire que dans notre comportement aussi, il y a ce paradoxe. On le veut, mais le fait-on?
Encore une fois, nous sommes hétérogènes. Le partage du gâteau entre les acteurs de la grande distribution, effectivement, va plutôt au profit de ceux qui pratiquent des prix bas. Mais l'ensemble du bateau, l'ensemble est en train de, lentement mais sûrement, de couler parce que voilà, le modèle de consommation appelle une autre manière de faire du commerce.
Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne Marie, on vous écoute.
Eh ben écoutez, j'en ai entendu des choses intéressantes. Ben écoutez, moi je voulais vous dire, je fais mes courses au marché, dans les petits commerces de proximité, mais je fais aussi mes courses dans les super ou les hypermarchés et j'en suis assez contente aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que je fais partie des 85% des gens qui ne vont pas aux caisses automatiques. Et je ne veux pas non plus scanner mes produits. Je ne veux pas retirer du travail. Et donc moi, en tant que consommateur, j'ai aussi un pouvoir, celui de dire non, je passe à une caisse où il y a un humain. Et pareil, sur Internet, je ne fais pas mes commandes sur Internet parce que je ne veux pas cautionner les conditions de travail de tous ces préparateurs de commandes. Voilà, nous aussi, en tant que consommateurs, nous avons un pouvoir, et je crois qu'on a aussi encore malheureusement aujourd'hui besoin des hyper et des supermarchés.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
C'est ce que venait dire dimanche à Angers, ouais, les salariés qui, par moment d'ailleurs, insultaient les clients. Moi, je suis passé en caisse sous les colibés. Alors, ils le faisaient sans doute maladroitement, mais les salariés du géant casino venaient expliquer aux clients
parce que non seulement vous venez voir comment ça marche pour votre métier, mais vous achetez des trucs. Hein, vous êtes trop fort.
Il faut bien le vivre. Il faut bien le vivre. Et donc, franchement, les clients étaient agressés par les salariés. On peut comprendre que les salariés revendiquent ainsi. Cela dit, c'est quand même pas la meilleure façon de faire du commerce quand on insulte ses clients, mais c'est un autre sujet.
Mais là, ce qui est frappant dans l'intervention qu'on vient d'entendre, absolument, c'est qu'en fait, de plus en plus, nous cherchons à travers nos actes de consommation à exprimer notre adhésion à des valeurs. Et ça, c'est relativement nouveau. Je crois que c'est parce que nous sommes dans une société de consommation, que la consommation occupe beaucoup, beaucoup d'espace. Et en même temps, on est dans le vide, en quelque sorte. Et on a envie, dans l'époque que nous traversons, de renouer avec des valeurs. Et forcément, un bon terrain d'expression de cette envie de valeur, c'est la consommation.
Et peut-être qu'on a compris qu'on pouvait le faire effectivement à notre échelle. Et la manière de l'exprimer à notre échelle, c'est éventuellement de refuser de passer devant la caisse automatique ou autre. Moi, je regarde avec beaucoup d'attention cette expérience, paraît-il, à Mende, où on veut faire au contraire une caisse lente, précisément pour casser cette chose-là. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a visiblement un supermarché, je ne sais pas quelle est sa taille en fait, qui est d'accord pour jouer à ça, en fait, également. Ce qui est assez étonnant.
Il se trouve que c'est extrêmement minoritaire parce que regardez-nous, notre relation au temps est de plus en plus une relation contrainte et les caisses automatiques, dans ce qu'elles promettent aux clients, c'est un temps actif.
Bien sûr.
Il va être acteur de son encaissement, donc ça va en apparence passer plus vite. Et voilà pourquoi, malgré tout, même si certains ne veulent pas, c'est respectable, il y en a déjà 15%. C'est énorme, 15% des consommateurs.
Ce qui est faux, parce qu'on ne veut pas faire la queue à la caisse, parce qu'il y a toujours le gars devant qui n'a pas le prix, mais celui qui a la caisse automatique, il peut aussi être le gars devant qui n'a pas le prix. Donc,
encore une fois, c'est la perception qui compte plus que la réalité.
Bonsoir Claude.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue Claude.
Oui, moi j'avais un témoignage, une question. J'ai connu les premiers hypermarchés dans les années 70 à 40 km du village de campagne où je vivais avec maman. C'est ouvert à l'époque, je vais citer des marques, c'est ouvert à l'époque le premier hangar qui sous la marque Leclerc. Suivi de près par un second qui s'appelait Suma. Là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans. C'était la révolution dans le village.
Bon, vous savez, moi, j'ai appris à conduire sur le parking Dino.
Donc, les femmes se groupaient pour aller en voiture, aller faire les courses et tout. C'était la révolution. Et c'était très bien. À l'époque, c'était vraiment beaucoup moins cher que chez le petit épicier du coin. Le temps passe. Ensuite, j'ai une famille et j'avais 5 personnes à nourrir tous les jours. Et j'ai fréquenté les... Euromarché Mammouth devenu Auchan et autres, les hyper de ma ville, parce que je trouvais qu'acheter les packs de lait par paquet de 6 et les paquets de gâteaux en promo, dont un gratuit par 4, c'était quand même très très économique avec 3 enfants. Maintenant, j'ai une soixantaine d'années, je ne fréquente plus ces établissements. J'y suis allée et j'en suis ressortie. La démesure, la grandeur, le temps perdu, les pas qu'il faut faire, sont plus à l'échelle de ma consommation. Je pense, et ça va être l'objet de ma question, j'y viens, que beaucoup de personnes maintenant sont soit en famille plus réduite que la mienne avec 3 enfants et un couple, monoparentales ou des gens qui vivent seuls et ne trouvent plus dans les hyper ce qui correspond à leur mode de consommation de maintenant. Et ceux qui ont besoin de ce dont j'avais besoin le trouvent maintenant dans les enseignes que vous avez citées, qui sont des enseignes discount, qui sont des choses qui n'ont pas de marque, ou etc., donc à prix moins cher. Donc la clientèle dont je faisais partie à l'époque, soit, à mon avis, s'est-elle déplacée vers les enseignes discount à bas prix pour des raisons économiques, ou ne fréquente-t-elle plus les hyper traditionnels devenus de plus en plus grands parce que on n'a pas besoin de paquets de nouilles par 3 kilos.
Merci pour votre témoignage, Claude. C'est pour vous, Philippe Moati, cette question. Est-ce que c'est le consommateur qui a bougé réellement? Est-ce que c'est simplement une question d'âge?
Oui, c'est bien. Vrai. C'est pas bien. Les consommateurs, ils sont profondément hétérogènes. Alors, si on les prend de manière un peu agrégée, effectivement, la démographie joue contre l'hypermarché.
Mais est-ce que Claude est un peu l'appartement témoin du consommateur aujourd'hui, effectivement, qui a été dans les hyper et qui aujourd'hui a changé son mode de consommation et donc changé de magasin?
De la démographie. C'est-à-dire qu'elle était cliente de l'hypermarché lorsqu'elle était en charge d'une famille. Mmh. Et donc là, l'avantage qu'on a à massifier ses achats est manifeste. Quand on est seul ou à deux, et il y a de plus en plus de petits ménages dans la population française, l'intérêt qu'il y a à prendre sa voiture pour en mettre plein son caddie est beaucoup plus réduit.
Donc, Un autre phénomène aussi, c'est que du temps où elle remplissait son frigo pour une famille, les hypermarchés étaient objectivement moins chers que les supermarchés.
Exact.
Désormais, les enseignes de supermarchés sont au même niveau que les hyper. Il n'y a plus cette graduation par le prix. Historiquement, le plus cher des hyper était toujours moins cher que le moins cher des super. Mm-hmm. Vous voyez l'échelle.
Et le commerce de proximité, tenu par la grande distribution, est beaucoup plus compétitif sur les prix.
Et donc, du coup, il y a du prix bas accessible beaucoup plus facilement qu'avant. On n'a plus besoin de faire 30 ou 40 kilomètres.
Là, une question dans le sens de ce que vous disiez sur nos habitudes de consommation. Voici une question, une remarque plutôt sur franceinter.fr. Les hypermarchés sont dépassés. Trop de plastique, trop d'emballage à cause d'eux, on pollue et donc je n'y vais plus. Là aussi, il y a même désormais des gens qui savent se positionner là-dessus.
Et des enseignes qui vendent
en vrac. Et qui se positionnent donc sur
sur l'antimodèle.
Sur cet antimodèle que nous souhaitons désormais. Bonsoir Étienne.
Oui, bonsoir.
C'est vous le dernier, je pense, Étienne.
Bon, oui.
Allez-y, je vous en prie.
J'écoute votre émission depuis le début, oui, effectivement. L'antimodèle, lui, il est là. C'est que est-ce qu'on peut se passer des hypermarchés sans problème? Bon, ça demande un petit peu plus de temps. Moi j'ai un petit marché le dimanche, comme une auditrice avant l'a dit. Je peux faire, je vois Loïc qui vend ses chèvres, je vois tout ça. Et donc ça me permet d'avoir des rapports humains, parce que alors là, aller dans un hypermarché sans caissier, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Étienne. On n'est pas obligé d'y aller, ça demande du temps, dit Étienne. C'est pas seulement, effectivement, l'un ou l'autre, Olivier Dauvel.
L'hypermarché, c'est quand même extrêmement pratique, c'est tout sous le même toit. Donc effectivement, on fait gagner du temps aussi en proposant tout au même endroit. C'est sûr que fractionner ses achats, sa viande à un endroit, ses fruits et légumes ailleurs, etc., etc., c'est plus coûteux en temps. Et on voit bien aussi que le temps est une aspiration qu'ont beaucoup de Français. Le gain de temps, c'est pas neutre.
Alors, gain de temps, ou quand on n'est plus obligé de gagner du temps au fond parce qu'on travaille plus, etc. C'est là
quand on est moins sous la contrainte du temps et moins sous la contrainte de l'argent, effectivement, on peut quitter l'hypermarché.
Ou quand le temps acquiert une signification et prend du sens. Et fréquenter le marché, c'est le concept commercial qui a le plus la cote auprès des Français. Le marché, parce que ça résume tout ça. C'est le dialogue, c'est les voisins, c'est les produits frais, c'est le spectacle de la rue, c'est l'authenticité.
Donc, d'ailleurs, les hypermarchés tentent de devenir des multimarchés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les concepts.
Donc le temps perdu, s'il est rempli, s'il a du sens, il n'est pas vécu comme étant un temps perdu, donc l'hypermarché doit se méfier de cette idée que sa légitimité ne vient que de la capacité à faire gagner du temps.
Mais d'ailleurs, c'est plus du tout là-dessus, effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, c'est plus du tout là-dessus qu'on communique, c'est plus sur le temps gagné, c'est plus sur tout ça, c'est plutôt effectivement sur la qualité, la fraîcheur, les circuits et autres. Je voudrais revenir un instant sur cette fameuse expérience de supermarché sans caisse, pour que les autres suivent, est-ce qu'il faudra que celui-ci marche, ou au contraire, c'est même pas ça le critère, en fait?
Si à Angers, là, dimanche après-midi, il a fait 500 clients. Un dimanche normal le matin, parce qu'il était déjà ouvert, il faisait entre 1000 et 1200 clients. Donc, c'est quand même déjà pas mal, avec tout le bazar qu'il y avait, de faire passer 500 clients. Parce que beaucoup ont abandonné et ne sont pas passés en caisse. Donc, s'il continue sur 500, voire 1000 clients le dimanche après-midi, vous êtes tranquille que son premier concurrent, il finira par réfléchir à lui aussi être ouvert.
Parce que ce que je trouve intéressant dans cette expérience-là, c'est que c'est dans une ville moyenne que ça commence, en fait, alors que on aurait pu imaginer, effectivement, que dans une grosse ville, un Paris, Marseille, un Lyon, ça aurait fait des résultats très différents, en fait.
C'est-à-dire à Paris, vous n'avez pas
d'hypermarché.
C'est une bonne remarque. Et ça se fait déjà avec des Monoprix, des Leader Price.
Qui sont ouverts même 24/24 pour certains.
C'est vrai que la taille n'est pas la même. Est-ce qu'on a le temps de prendre Norbert? Si vous me promettez d'aller vite, Norbert, allez-y.
Je vais très vite.
Allez, je vous en prie.
J'ai bien entendu tout ce qui a été dit, qui est très pertinent. Moi, je voudrais apporter un point. Soyez vigilants sur les prix affichés en supermarché. Très souvent, par rapport à ce qui est affiché, il y a 3, 4, 5, 10, 15 centimes de plus qu'on voit ou qu'on ne voit pas en passant en caisse. Et c'est valable aussi bien à Paris qu'en province. Voilà, ça sera ma conclusion. Sinon, l'intervention d'une intervenante Carrefour est tout à fait sensée. Il y a de très bons produits. Mais ce n'est pas sur la qualité des produits que se pose le problème. C'est comme les promotions qui sont plus chères que les articles en rayon. Voilà. Soyez vigilants sur les prix.
Voilà, écoutez Norbert, le message est passé, cela dit, prix affiché, prix payé, non?
Oui, il y a beaucoup d'erreurs, moi j'en fais mon miel tous les jours, il y a beaucoup d'erreurs dans les enseignes qui est la conséquence du fait qu'il y a beaucoup de produits. Encore une fois, un hypermarché, le plus grand hypermarché en France, il a 200 000 produits, donc c'est pas pour l'excuser, mais faire 200 000 sans faute, c'est quand même très dur.
Et je voudrais rebondir peut-être sous forme de boutade à ce qui vient d'être dit. 200 000 produits dans un hypermarché, c'est ce qui a fait son succès. Amazon vend en France 250 millions de produits. Voilà. Et ça explique aussi pourquoi l'hypermarché va avoir du mal à traverser cette période de turbulence.
Et qu'on n'a pas fini de voir donc si on vient sur les caisses automatiques, si on finira avec notre portable pour acheter du poisson, des pâtes ou autre chose, on le verra, ce sera l'occasion de revenir. Merci à tous, comme d'habitude, pour vos nombreuses questions. Merci à vous tous qui nous avez appelés au téléphone.